France Musique.
Ben oui, c'est bon. Bonjour Coco. Après cette semaine d'émission La Maison, 18 mai, lundi 18 mai, ravi de vous retrouver en studio, en direct de la Maison de la Radio. Allez, c'est parti. Et merci donc d'avoir choisi France Musique. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h. C'est le plus grand établissement où l'on enseigne la musique en France. Depuis 2 mois, le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris a fermé ses portes. Alors, comment assurer une continuité pédagogique? De quelle façon les examens pourront-ils avoir lieu? Et les quelques 1400 élèves vont-ils bien? Émilie Delorme, la nouvelle directrice du CNSM de Paris, sera notre invitée vers 8h45. Quand l'espoir vient d'Autriche, très progressivement, le pays va rouvrir ses salles de spectacle, 100, puis 250, puis 1000 personnes. C'est l'une des infos que développera Sophie Anastasio à 9h20. Direction Los Angeles à 8h30 où le LA Dance Project, la compagnie du chorégraphe Benjamin Millepied, lance sa plateforme de streaming. C'est payant. Suzanne Gervais nous dira ce que l'on peut y trouver. Et puis en quelques semaines, elle est devenue l'une des personnalités préférées des Français. Elle est depuis plusieurs années chroniqueuse sur France Musique. Vers 8h15, Roselyne Bachelot tombe le masque et nous révèle la musique qu'elle emporterait sur une île déserte.
Musique Matin, Jean-Baptiste Urbain.
Allez, très bon réveil en musique avec pour commencer Rossini par Abbado pour notre retour en studio.
Thank you.
Il a 20 ans, Rossini, quand il écrit cet opéra, L'échelle de soi, cette farce comique, c'était l'ouverture. Et c'était l'orchestre de chambre d'Europe dirigé par Claudio Abbado. Surprise, le festival Rossini de Pezzaro, plutôt en Italie centrale. Ce festival italien donc a annoncé son maintien en août du 8 au 20 août, tout en respectant les distanciations sociales. On y revient avec Sophia Anastasio à 9h-20. De l'espoir donc en Italie et de l'espoir aussi sur France Musique. Bonjour Marc Moinchet.
Bonjour Jean-Baptiste, ça fait rudement plaisir de vous revoir en chair et en os, si autrement que par vidéoconférence. Vous aviez le cheveu plus en bataille que ce matin.
Hein. Ah là, ça y est, c'est tout est coupé.
Ah
vous
oui,
aussi.
Je vois ça,
Marc Moinchet, directeur de France Musique, l'espoir. Donc avec depuis une semaine le retour de plus en plus d'émissions en studio en direct. C'est donc notre cas à partir d'aujourd'hui. C'est le cas aussi à partir de 11h de Denisa Kershova d'abord. Ces deux mois passés, comment ils se sont déroulés pour vous, pour notre chaîne, et quel regard vous portez sur ces façons totalement inédites de travailler ?
Écoutez, deux mois, je crois un peu comme tout le monde, à la fois par moments extrêmement triste, inquiet, et un peu triste, et puis à d'autres moments, un avant calmé droit, du jarret. Il ne faut pas se laisser abattre par ce genre de situation, surtout qu'on sait que la radio, à ce moment-là, elle a un rôle. On le sait qu'elle a un rôle important, mais tout d'un coup on le retouche plus du doigt. Voilà, on le ressent plus parce que d'abord il faut dire que nous on fait partie d'un plan. Hein, vous savez que c'est Radio France est une radio d'État qui au sens qu'il y a des missions. Donc il fallait préserver en priorité les chaînes dites d'information parce que c'est crucial. C'était considéré comme urgent, mais on a très vite considéré qu'il était urgent qu'en face des infos anxiogènes, ou à côté, ou comme vous voulez, il n'y a pas de concurrence, c'est pas la question, mais qu'il y ait une proposition forte de culture et de musique, hein, ce qu'ont fait nos amis de France Culture, et nous, très vite, évidemment, de se dire, il faut être là, parce que c'est pas être grand clair que de se dire qu'on va avoir besoin de nous. On va avoir besoin de souffler, que la musique va apporter quelque chose, à savoir que dès lors qu'on zappe d'une chaîne à l'autre, si on arrive chez nous, on est sûr à 99,9% que non pas qu'on va oublier les choses, mais qu'on va souffler un peu, quoi. On va souffler, on va pas trop s'affoler, on va prendre le temps de réfléchir un peu, de se concentrer sur soi, sur les autres, sur ce qu'il faut faire, mais plus forcément dans le stress. Je crois que c'est ça que la musique a apporté. C'est pas qu'elle réconforte pour réconforter, c'est qu'elle permet la pause, quoi, par rapport à ce qu'on vivait. Et puis elle permet aussi un peu d'oublier un peu le temps long qui passe de l'attente, des journées longues chez soi, enfermées, où tout d'un coup vous êtes pris par une émission qui vous prend par la main, qui vous embarque, vous le voyez pas le temps passer. Et tout d'un coup vous dites, qu'est-ce que j'ai foutu, j'ai écouté la radio toute la journée. Bon, et oui, sauf que c'est bien, et tout le monde a joué le jeu. C'est-à-dire que moi j'ai été très très épaté par le sang-froid des équipes, par vous tous et toutes là, et de dire on va se démerder, mais on va la faire cette radio, on sera là pour tout le monde. Et donc vos pastilles, vos vidéos, votre sens de l'humour.
Les émissions sous la couette.
Voilà. Les émissions, ah ouais, ça, il y a une photo d'archive, il faudrait que vous la publiez un jour, je ne l'ai pas fait, parce que je n'ai pas respect. Pour... Mais il y a vraiment, ouais. Ben, on a appris à faire des choses aussi différemment. Est-ce que ça nous servira pour l'avenir? Je n'en sais rien, mais c'est vrai qu'on a, oui, il y a eu un système D, dont il faudra peut-être, oui, tirer les enseignements, parce que ça a marché. Mais vraiment, encore une fois, un grand coup de chapeau à toutes les équipes, techniciens, réalisateurs et les gens dans la coulisse, hein. N'oublions pas l'administration. Voilà, qui, comment payer les gens à distance. Enfin, on a tout fait à distance à la maison. Et on l'a fait, voilà, et petit à petit, puisqu'on fait partie, encore une fois, d'un plan, là, de reprise, où il faut faire attention, bien sûr, voilà, aux gens qui reprennent le travail. Là, nous, on a fait très gaffe sur les distances de sécurité. Je ne resterai d'ailleurs pas plus longtemps avec vous après ce micro. Mais donc, il a fallu faire progressivement. On nous a dit, mais pourquoi Jean-Baptiste, il rentre pas tout de suite? Et pourquoi il est pas en 7-9? Et ben, on fait tout progressivement, avec précaution. Et j'ai déjà trop parlé. Je le vois, votre air inquiet.
Non, juste d'un mot, Marc Boinchet, vous qui dirigez France Musique, qu'est-ce qui va se passer à l'antenne aujourd'hui, ces prochains jours, ces prochaines semaines?
Il faut quand même, sinon après, mais il faut que je salue absolument Stéphane Grant, vous savez, le directeur adjoint de France Musique, qui a fait et qui fait toujours un travail absolument formidable. Je vois qu'il est content aujourd'hui parce qu'il était chez le coiffeur. Voilà. Et sinon, ben voilà, non. Alors, vous rentrez, vous, pour un 8-9. Denis Akarchova rentre aussi pour Allegretto. Je voudrais dire aussi qu'on sera évidemment, comme on l'a promis, partenaire et en soutien solidaire de Jazz Sous les Pommiers, qui est un des premiers festivals que nous allons célébrer à notre manière avec les grandes heures, en diffusant 3 jours d'affilée les grandes heures de Jazz Sous les Pommiers, jeudi, vendredi, samedi prochain. Que ce soir, nous rendons hommage à Gabriel Baquier, disparu la semaine dernière, les grands entretiens à 22h30. Et puis surtout que notre engagement là, il va être en soutien aux musiciens, quand même, évidemment. Vous savez que c'est en fait ça le plus préoccupant. Le milieu de la culture, du théâtre, du concert est en vraie souffrance, avec des statuts précaires, des revenus pas toujours... Il n'y a pas que les stars, voilà, il y a des revenus pas toujours, voilà, assurés, formidables, et voilà. Donc on va faire ce que nous devons faire, nous, les soutenir, leur donner la parole et les soutenir le plus qu'on peut, avec, qui sait, un festival France Musique pour la grille d'été. Allez, j'en dis pas plus.
Qui sait, à suivre. Merci. À suivre.
Merci Jean-Baptiste.
Merci Marc.
Salut Yacine. Salut José.
Yacine et José qui sont de l'autre côté de la vitre et qui, eux, gardent leur masque. 8h13, France Musique. Vous aimez le cinéma, vous, Marc, moi, et je propose d'aller à Deauville, où vient de s'achever ce week-end le premier jour où on peut marcher sur les plages. À Deauville, c'est très prudent, hein. C'est uniquement de 6h à 9h le matin, par exemple, en écoutant France Musique. Eux couraient sur la plage de Deauville pour se jeter dans les bras l'un de l'autre. Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant, Un homme et une femme, Palme d'or à Cannes en 66, le long métrage de Claude Lelouch, il est diffusé ce soir sur France 5 à 21h, musique signée Francis Lay. Musique reprise sur son tout nouveau disque par Thomas Dutronc en duo avec Stacy Kent.
Encore une fois, madame, 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 comme
L'album s'appelle Frenchie, à dire à la française, j'imagine, nouvel album de Thomas Dutronc, en duo ici avec Stacy Kent, mais aussi Eric Lénini au piano, Rocky Gresset à la guitare, Thomas Bramrim à la contrebasse et Denis Benaroche à la batterie, Un homme et une femme, musique de Francis Lay, parole de Pierre Barou. Le film de Lelouch est ce soir sur France 5 à 21h et le service public qui fait vivre le Festival de Cannes, même sans Croisette cette année. C'est le cas également sur France Musique avec Thierry Jousse, Ciné Tempo tous les samedis à 13h. Elle aussi, elle est tous les samedis sur France Musique à 8h50. La chronique lyrique de Roselyne Bachelot. Roselyne Bachelot, c'est la voix de France Musique aujourd'hui. Roselyne qui, pour nous, nous livre une musique chère à son cœur et qu'elle aime écouter en ce moment.
Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
On demande souvent... Quelle œuvre emporteriez-vous sur une île déserte ? À cette question, je réponds sans hésiter Parsifal, l'œuvre mythique de Richard Wagner, celle qu'on écoutait comme une œuvre sacrée dans le Feldspielhaus en se refusant d'applaudir à la fin de l'œuvre. Parsifal, une œuvre de rédemption, un parcours initiatique. Alors quel chef d'orchestre ? Eh bien, le grand Hans Knapperbusch, dont la lenteur d'exécution collait parfaitement à la majesté de cette œuvre mythique de Richard Wagner. Quel interprète ? Hans Hotter, le grand Hans Hotter, dont la profondeur de la voix, l'étendue de la voix, le registre collait parfaitement à la fois à l'œuvre de Wagner et à la direction de Knapperbusch. Et quel passage ? Eh bien... L'appel déchirant d'Amfortas, Erbarmen, Erbarmen, pitié, pitié. Et véritablement, on ne peut pas entendre cet appel passionné, douloureux, sans avoir le cœur qui se brise. Ihr wird mich erfreut,
L'appel d'Amfortas, Herr Barmen, à l'acte 1 de Parsifal de Richard Wagner. C'était le grand Hans Sutter, le chœur et l'orchestre du Festival de Bayreuth, dirigé par Hans Knapperbusch, un enregistrement de 1954. Le choix ce matin de notre voix France Musique du jour, Roselyne Bachelot. On la retrouve tous les samedis dans Musique Matin à 9h10 en compagnie en ce moment de Priscille Lafitte. Dans la famille Moreau, je demande, eh bien, toute la famille, après Renaud Capuçon et Guillaume Bellhomme, qui samedi ont inauguré la série de concerts en direct filmée sans public par Medici.tv. Ça se passe à Paris à la Fondation Saint-Gerre-Polignac. C'est toute la famille Moreau qui sera sur scène ce soir à 19h. Raphaël Moreau, elle sera au violon, de même que son frère David. Jérémy, lui, joue du piano. Et puis le plus connu, le grand Edgar, au violoncelle, toujours ébouriffé, toujours ébouriffant, ici dans la musique de Giovanni Benedetto Plati. La musique de Giovanni Benedetto Plati, premier mouvement allegro de son concerto en ré majeur. C'était Edgar Moreau au violoncelle, Il Pomodoro, dirigé par Riccardo Minasi. Edgar Moreau avec ses frères et sœurs ce soir donc sur la chaîne Medici.tv. C'est l'un de ses concerts qui sont donnés en direct mais sans public, qui continuent à se multiplier un peu partout en France et dans le monde. Merci d'écouter France Musique, c'est Musique Matin, de retour à la maison. de la radio. Il va faire beau partout en France toute la journée, sauf je crois en Corse. Nous sommes le lundi 18 mai. Bon anniversaire à toutes celles et ceux qui sont nés ce jour-là. Yannick Noah, par exemple, 60 ans aujourd'hui. À 9h, ce sera l'entrée en piste d'Émilie Munera et Rodolphe Bruno Boulmier avec Vivaldi à la clarinette. Au programme, notamment, c'est le nouveau disque du Suédois Martin Fröst. 9h moins le quart, comment le Conservatoire supérieur de musique de Paris s'adapte-t-il à la crise sanitaire? Comment vont d'ailleurs ses étudiants, sa nouvelle directrice? Émilie Delorme sera notre invitée. 8h40, le festival de Salzbourg aura bien lieu. Quand l'espoir vient d'Autriche, c'est le programme de Classique Info avec Sophia Anastasio. Mais tout de suite, à pile 8h30, voici Suzanne Gervais. Bonjour Suzanne.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour tout le monde.
Ravi de vous retrouver en direct, tout va bien?
Mais de même, tout va bien, je vous remercie.
Allez, on commence avec de la danse ce matin et cette semaine. Direction Los Angeles, on voyage un peu, on va faire un petit tour du côté de la compagnie fondée en 2012 par le très médiatique Benjamin Millepied.
Mais oui, le LA Dance Project lance sa très attendue plateforme de streaming. C'est une sorte de petit Netflix de la danse, hein, si vous voulez. Le contexte est propice, en tout cas, disons-le, au lancement d'une telle plateforme qui consolera sans doute un petit peu les danseurs de la compagnie californienne de l'absence de représentation. Je rappelle qu'à Los Angeles, le confinement devrait durer jusqu'à la fin du mois de juillet. Alors qu'est-ce qu'on trouve quand on s'abonne à la LA Dance Project Digital, hein, c'est le nom de la plateforme? Eh bien, sans trop de surprises, on peut voir des retransmissions de spectacles et de répétitions de la compagnie, des archives, et ce que j'aime beaucoup moi c'est qu'on a aussi accès à des cours, à des classes quotidiennes qui sont dispensées par les danseurs, à des masterclass de Benjamin Millepied et de chorégraphes invités, et puis il y a des interventions de spécialistes de la santé et du bien-être, des thérapeutes, des nutritionnistes, et ça devrait aussi intéresser les danseurs professionnels et amateurs. Alors bien sûr l'abonnement est payant, mais avec une période d'essai d'une semaine, et ce qui est intéressant c'est que dans l'univers du streaming musical, les plateformes spécialisées sont déjà nombreuses, musique classique, jazz, musique africaine et j'en passe. Et ce phénomène de spécialisation est plus récent, mais il prend de l'ampleur du côté du streaming vidéo. On le voit justement avec la plateforme du LA Dance Project, mais aussi avec une plateforme comme Quest TV. Quest TV, je ne sais pas si vous ne la connaissez, c'est le Netflix du jazz, en tout cas c'est comme ça qu'on l'appelle, qui est parrainé par Quincy Jones en personne. Et puis dans de tout autre domaine que la musique, il y a Twitch pour le streaming de jeux vidéo qui marche très bien. Et dans le vaste monde du cinéma, on voit s'imposer des plateformes spécialisées dans le documentaire ou le cinéma d'auteur. Reste maintenant à retenir l'attention et le portefeuille de l'internaute, hein, qui doit faire son choix parmi une offre de plus en plus pléthorique.
Suzanne Gervais, Musique Connectée, c'est également sur francemusique.fr. D'ailleurs, votre chronique de vendredi dernier, Suzanne, consacrée à l'École Normale de Musique de Paris, Alfred Cortot, on avait eu un petit problème d'aiguillage oui. Vendredi dernier, mais la chronique, elle est bien là, sur le web, on peut l'écouter dès à présent. À demain, Suzanne.
À demain.
Le LA Dance Project de Benjamin Millepied qui aurait dû se produire d'ailleurs à la scène musicale à partir de la fin du mois de mai pour une série de représentations de Roméo et Juliette. Eh bien ce spectacle il est reporté à l'année prochaine, en janvier prochain. Roméo et Juliette sur la musique, bien sûr, de Prokofiev. Les Montaigu et les Capulettes, extrait du ballet Roméo et Juliette de Prokofiev. C'était l'orchestre philharmonique de Radio France dirigé par Myung Woon Chung. Il est parfois difficile de vivre en accord avec ses valeurs. C'est la crise existentielle que va vivre le directeur d'un grand musée d'art moderne à Stockholm quand il se fait voler son portable, son téléphone portable. C'est le début de The Square, un film du Suédois Ruben Östlund, une fable d'abord très drôle et puis ensuite assez glaçante. Ce film a remporté la Palme d'Or il y a 3 ans à Cannes. Vous ne l'aviez pas vu? Eh bien, faute de festival, en tout cas, Arte diffuse ce soir ce film The Square. À 20h50, vous y entendrez Jean-Sébastien Bach, clair de la 3e suite pour orchestre, mais dans un arrangement tout à fait particulier, impeccable, des Swingle Singers, toujours aussi swing et cool. France Musique pour un réveil en douceur et quand les Swingle Singers revisitent Jean-Sébastien Bach, c'était l'air de la 3e suite en ré. C'est sur la bande originale du film The Square, film de Ruben Östlund. C'est ce soir sur Arte à 20h50. Pour l'heure, il est 8h40. Et c'est l'heure de Classique Info avec Sophia Anastasio. Bonjour Sophia.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous.
On commence avec le Festival de la Chaise Dieu. Il avait décidé fin avril de dévoiler sa programmation telle qu'elle avait été conçue avant le début de la crise.
Oui, le Festival de la Chaise Dieu est finalement contraint d'annuler sa prochaine édition. Elle devait se tenir du 20 au 30 août. Dès l'automne, le festival reprendra tout de même ses activités de résidence, d'éducation artistique et culturelle, en attendant la 55e édition qui sera en partie inspirée de l'édition 2020 annulée.
Il y aura bien une fête de la musique le premier jour de l'été.
Un grand rendez-vous, mais sans prendre de risque, assuré vendredi dernier le ministre de la Culture. Invité sur RTL, Franck Riester a également déclaré espérer pouvoir organiser des événements culturels de moins de 5000 personnes à partir de juin, juillet et août, en tenant compte des contraintes. Enfin, il discute actuellement de la réouverture des conservatoires et écoles de musique avec les équipes de Jean Castex, chargé par le Premier ministre de coordonner la stratégie du déconfinement.
En Autriche, le gouvernement a annoncé la réouverture progressive des salles de spectacle, et ce à partir du 29 mai.
Les théâtres et les salles de concert pourront accueillir jusqu'à 100 spectateurs à compter de la fin du mois. La jauge sera ensuite élargie à 250 personnes au 1er juillet et jusqu'à 1000 personnes au 1er août. Dans ce cadre, le Festival de Salzbourg, qui célèbre son centenaire, a annoncé son maintien adapté dans une version adaptée donc aux nouvelles normes sanitaires. Le secteur culturel s'est largement manifesté la semaine dernière dans le pays, se disant oublié des aides financières et des levées de restrictions. Une situation qui a conduit à la démission de la secrétaire d'État à la culture. Et en Italie, c'est le festival Rossini de Pesaro qui a annoncé son maintien du 8 au 20 août avec un programme ajusté pour protéger les artistes et le public qui sera installé dans des loges.
Et puis dans le Figaro, les journalistes Christian Merlin et Thierry Ilerito se sont penchés sur la reprise des activités de nos orchestres.
Depuis le début du confinement, de nombreux orchestres échangent en quête de solutions, raconte Nicolas Drouin, responsable de l'Orchestre de Chambre de Paris. Il ajoute que cette crise a mis en exergue une grande solidarité dans le milieu symphonique. De nombreuses formations envisagent un début de reprise à huis clos dès le mois de juin. À Radio France, Michel Aurier, directeur de la musique, prévoit une reprise après le 2 juin avec un concert par semaine réunissant une trentaine de musiciens, essentiellement des cordes et des percussions de l'Orchestre Philharmonique de Radio France ou de l'Orchestre National de France, enregistrés par France Musique. C'est donc un article à lire sur lefigaro.fr et dans La Croix ce matin, c'est l'Orchestre National d'Île-de-France qui parle de sa reprise.
Et on suivra ça de près, évidemment. Merci Sophia Anastasio, Classique Info. On retrouve certaines de ces informations développées dans la rubrique Actualité musicale de francemusique.fr. À demain.
À demain.
La nouveauté du jour, c'est un disque de musique contemporaine. Et oui, la musique de Carole Beffa. C'est sur un album intitulé Talisman. Il vient de paraître chez Clart. Il rassemble ce disque quatre œuvres que le compositeur a écrites entre 2007 et 2018. Il y a de la musique symphonique et de la musique de chambre, comme Talisman, qui donne son nom au disque. C'est un quintet pour piano, clarinette, violon, alto et violoncelle en quatre mouvements. Une commande d'ailleurs de Radio France de 2018, tour à tour mystérieux, contemplatif, sec et lent. Le troisième mouvement, Secco, le plus vif, le plus ludique, et où en deux petites minutes, les instruments écoutés échangent en permanence leur rôle. Thank you. Seco, extrait de Talisman, quintette de Carole Beffa. C'était Patrick Messina à la clarinette, Lyodo Kaneko et Jung Unko au violon, Alan Swinton à l'alto, Marlène Rivière au violoncelle et Sania Biziak au piano. Oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ben non, ils sont même 6 du coup dans Talisman. C'est donc un sextuor. C'est aussi le titre de cet album qui paraît chez Clart. France Musique, il est 8h47, l'heure de joindre notre invité.
Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
7-9 qui est de 8 à 9 en ce moment. Et notre invitée ce matin, c'est Émilie Delorme, directrice du CNSMD de Paris, le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse. Bonjour.
Bonjour.
Depuis 2 mois et jusqu'à la fin de l'année universitaire, la règle est la même pour tous les étudiants, l'enseignement à distance. D'abord, Émilie Delorme, il y a environ 1400 étudiants au CNSMD de Paris. Certains viennent de l'étranger, beaucoup logent dans des chambres, dans des studios. Ces étudiants, vos étudiants, comment vont-ils ?
Je crois que c'est à l'image de la population française. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a eu des décisions qui ont été difficiles à prendre. Mais je crois qu'ils sont déterminés à continuer leurs études, ils sont passionnés par ce qu'ils font et donc ils essaient de faire en sorte que ça se passe le mieux.
On pense aussi à leurs conditions financières, certains donnaient des cours, il y en a qui gagnent un peu d'argent en étant ouvreuses et ouvreurs. Comment s'en sortent-ils ? Il y a des difficultés particulières pour certains ?
Oui, tous les étudiants qui étaient déjà dans une précarité financière et qui survivaient avec des petits boulots, justement, comme vous le dites, le sont encore plus. Et puis on voit arriver aussi des nouvelles difficultés de gens dont notamment dans les parents sont victimes de la crise. Et vous l'avez aussi mentionné au départ, il y a des étudiants qui viennent d'Asie, voilà, qui ont dû regagner leur pays dans des conditions rapides. Et ça a aussi un coût financier.
Alors Émilie Delorme, avec toute l'équipe pédagogique, tous les enseignants du Conservatoire supérieur de Paris, vous avez dû mettre en place ce qu'on appelle une continuité pédagogique. Comment ça s'est fait ? Comment vous avez pu l'assurer ? On pense à la visioconférence, l'envoi de vidéos également ?
Oui, alors on dit continuité pédagogique, mais c'est on recherche une continuité. Parce que, évidemment, pour le geste artistique, c'est de même façon qu'on ne peut pas remplacer le concert par une retransmission vidéo. Le cours en direct ne peut pas être le même, mais vous imaginez bien quand vous apprenez la direction d'orchestre ou la danse, c'est à distance, c'est quand même extrêmement compliqué, mais les enseignants ont été très créatifs. Donc il y a une partie des cours, par exemple si on prend les cours instrumentaux, qui peuvent se faire en visio. Alors bien sûr, on travaille pas le son, on travaille pas la même chose qu'on fait en réel, mais on essaie d'aborder d'autres sujets aussi, de parler de la carrière, de travailler sur les œuvres, le contexte. Voilà, chacun il va soit par de la vidéo live, soit par de l'envoi de fichiers ou par l'envoi de documentation. Voilà, selon les enseignants, on a différentes approches.
Vous parliez de la direction d'orchestre, de la danse. Comment ça se passe pour aussi des instruments qu'on n'a pas forcément chez soi ? Je pense à l'orgue, aux percussions.
Alors, il y en a qui sont arrivés à trouver des solutions pour travailler un peu leur instrument, mais c'est dramatique pour beaucoup d'élèves. Et donc là, c'est un peu notre priorité. Moi, je suis au Conservatoire pour la première fois depuis 2 mois aujourd'hui. Et on essaye de pouvoir réouvrir justement pour les étudiants qui ont le plus été privés de leur pratique. Donc on essaie d'ouvrir nos ressources, l'accès à la médiathèque, l'accès au parc instrumental et en effet l'accès aux salles avec des instruments comme les orgues et les percussions.
Donc là vous nous annoncez qu'il va pouvoir comme y avoir de façon très très mesurée quelques étudiants et donc enseignants qui pourront entrer à nouveau au conservatoire ces prochaines semaines.
Alors pas d'enseignants puisque la loi d'état d'urgence est très claire, on ne pourra pas donner de cours, mais on essaye de faire quelques exceptions pour les étudiants. Nous on y est prêt, maintenant on attend le décret qui nous le permette.
Émilie Delorme, on est le 18 mai, évidemment c'est la période des examens. Comment, dans ces conditions, les examens au Conservatoire supérieur de Paris vont-ils pouvoir se dérouler ?
Alors on a 2 choses, on a les examens pour évaluer les élèves en cours de cursus, et là on est passé beaucoup en contrôle continu. Parce que comme vous l'avez dit, il y a 1400 étudiants, donc c'est un gros volume d'examens organisés. Sur les disciplines théoriques, on a mis en place des télé-examens avec des protocoles qui ont été décidés discipline par discipline pour s'assurer que tout le monde puisse passer les épreuves. Mais le plus gros défi pour les absolvants d'enseignement supérieur en ce moment, c'est les concours d'entrée, parce que là, il faut être très vigilant aux modalités que l'on tient pour garantir une équité entre des candidats qui sont parfois aux 4 coins du monde. Et donc là, on a essayé de ne pas vouloir transposer absolument ce qui se faisait normalement, mais d'essayer d'inventer quelles étaient les épreuves les plus justes dans les conditions qu'on avait pour arriver à juger les candidats au concours d'entrée.
Les élèves qu'ils souhaitent aujourd'hui, qui sont chez vous au Conservatoire de Paris, ils vont pouvoir faire une année de plus s'ils estiment qu'ils ont besoin d'en faire davantage pour les plus grands, ceux qui étaient en fin de cycle.
Alors encore une fois, compte tenu du volume, on peut pas offrir une année de plus à tout le monde, mais sur certains cursus, c'est prévu et on va du coup le faire plus largement que normalement. Et puis, on va essayer de prolonger la scolarité jusqu'au mois de décembre de ceux qui le souhaitent, pour avoir un peu un sas, pour pouvoir accès à nos ressources, aux salles de répétition, pour qu'on puisse organiser des moments de rencontre avec des professionnels, des moments où ils seront vus sur nos scènes, puisque les examens de mai et juin, en dehors d'être des moments d'examen, c'est avant tout aussi des moments d'exposition pour les professionnels, et de c'est les premiers éléments de l'insertion professionnelle. Donc on va essayer de prolonger de quelques mois le sas entre la vie étudiante et la vie professionnelle.
Vous avez pris la direction du CNSM de Paris en début d'année, Émilie Delorme. Vous faites face à cette situation inédite, et notamment ce respect de la distance physique qui pourrait demeurer l'année prochaine. Comment les cours vont-ils pouvoir reprendre? Il y a cette question dont on parle beaucoup sur France Musique depuis quelques semaines maintenant, des instruments à vent, du chant, avec l'émission de ces fameuses gouttelettes. Je pense aussi aux instruments qu'on partage d'un musicien à l'autre, le piano, l'orgue, les percussions dont on parlait. Comment ça va pouvoir reprendre? J'imagine que vous êtes confronté à toutes ces questions en ce moment?
Alors, il y a les questions globales à l'échelle de l'établissement. Donc là, on essaye de prévoir un peu toutes les restrictions qui pourraient y avoir lieu, de nombre de personnes par salle, de nombre de personnes dans l'établissement. Donc ça, c'est un jeu de planning et d'organisation pour qu'il y ait une alternance entre les élèves. Donc ça, c'est une construction, on va dire, intellectuelle qu'on fait pour l'instant jusqu'à ce que la partie législative se clarifie. Et puis, d'autre part, il y a des protocoles spécifiques sur certains établissements, voilà, sur le nettoyage des claviers, notamment certains claviers qui sont délicats. Donc là, par exemple, quand on va réouvrir, c'est un élève par jour par salle avec un nettoyage chaque nuit. Et donc, on va essayer de mettre en place des protocoles instrument par instrument. On voit que sur les instruments à vent, il y a eu beaucoup d'inquiétudes. On voit que là, les premières études scientifiques qui sortent ont l'air plutôt rassurantes. Donc on espère pouvoir avoir aussi les instruments à vent parmi nous à la rentrée.
Des instruments à vent, on en entend justement derrière nous. On va terminer avec autre chose que cette crise sanitaire. Émilie Delorme, le CNSM de Paris a lancé cette saison un nouveau label discographique qui s'appelle Initial. 4 disques sont déjà sortis. C'est quoi l'idée?
Bah, l'idée, c'est de pouvoir offrir à des élèves un disque monographique qui est très important dans l'insertion professionnelle, et puis montrer aussi toutes leurs qualités, puisque c'est eux qui conçoivent leurs programmes, qui font de la recherche et qui souvent sont les plus créatifs sur le marché, et on avait envie de refléter ça dans notre collection.
Et parmi ces 4 disques, celui-ci avec Alessandro Orlando au corps naturel et l'ensemble Sarbacane avec notamment le hoboïste Gabriel Pidou, révélation instrumentale aux dernières victoires de la musique classique. Les voici dans la musique de Téléman. Merci beaucoup Émilie Delorme.
Merci, bonne journée.
Thank you.
Le Rigaudon et le plaisir extrait de cette ouverture en fa majeur de Téléman, Alessandro Orlando, l'ensemble Sarbacane. C'est un disque du label Initial, le label du CNSMD de Paris. Émilie Delorme était notre invitée. Vous pouvez réécouter cette interview sur francemusique.fr. Et bien voilà, c'est la fin de Musique Matin à la maison de la radio. José Bernès et Antoine Giraud étaient à la technique. Yacine Bouzard à la réalisation. Max Dozon avec Marjolaine Portier-Kaltenbach, Taïsia Froidure et Margot Muller à la coordination. Demain, notre invité sera le violoniste et chef d'orchestre David Grimal. Ballet Masque, voici Émilie Munera et Rodolphe Bruno Boulmier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour Jean-Baptiste.
Vous êtes content d'être revenu à la maison de la radio?
Ravi.
De ne plus enregistrer votre émission sous votre couette, comme vous nous l'avez dit.
Et sur votre iPhone.
pas de marque de couette.
On est très heureux de vous retrouver. Et alors, de notre côté, on va ouvrir cette émission avec Vivaldi et des concertos pour clarinette tout nouveau, tout créé.
Eh bien.
À demain.
À demain.
À réécouter sur francemusique.fr.